78. Jean Dibal et Novi étaient assis tous les deux côte à côte face à l'écran. Novi était terrorisé. Pour Jean Dibal, c'était tout à fait visible, tout comme le fait qu'elle essayait désespérément de combattre cette terreur. Et l'orateur ne pouvait l'aider car il pensait qu'il n'était pas judicieux de toucher à son esprit en ce moment, c'est-à-dire de prendre le risque d'obscurcir les réactions qu'elle montrait au faible champ mentalique dont ils étaient entourés. Le vaisseau de guerre de la Fondation approchait lentement, mais délibérément. Il s'agissait d'une grosse unité, avec un équipage de peut-être 5 ou 6 hommes, s'ils se fiaient à leur expérience passée des vaisseaux de la Fondation. Son armement, Jean Dibal en était certain, suffirait à lui seul à les neutraliser, et si nécessaire, balayer une flotte composée de tous les vaisseaux dont disposait la Seconde Fondation, s'ils avaient dû s'appuyer sur la seule force physique. En tout cas, cette progression du vaisseau de guerre, même face à un unique vaisseau piloté par un membre de la Seconde Fondation, permettait de tirer certaines conclusions. Même s'il possédait des facultés mentaliques, il était peu plausible qu'il se jette ainsi dans la gueule de la Seconde Fondation. Plus vraisemblablement, ils avançaient dans l'ignorance, et celle-ci pouvait revêtir plusieurs formes et divers degrés. Cela pouvait signifier que le capitaine du vaisseau de guerre ne savait pas que Compor avait été remplacé, ou s'il le savait, ignorait que son remplaçant était un second fondateur, voire ignorait ce que pouvait être un second fondateur. Ou, car Jean Dibal tenait à envisager toutes les hypothèses, si le vaisseau était effectivement doté d'un champ mentalique et progressait néanmoins avec cette assurance, cela pouvait uniquement signifier soit qu'il était sous le contrôle d'un mégalomane, soit qu'il possédait des pouvoirs au-delà de tout ce que Jean Dibal pouvait considérer comme possible. Mais ce qu'il considérait comme possible n'avait pas valeur de jugement définitif. Prudemment, il sonda l'esprit de Novi. Elle était incapable de percevoir consciemment les champs mentaliques, au contraire bien sûr du sien. Pourtant, l'esprit de Jean Dibal était, lui, loin d'avoir la sensibilité de celui de Novi, et restait incapable de détecter des champs mentaliques aussi faibles. C'était là un paradoxe qu'il conviendrait d'étudier à l'avenir, et qui pourrait éventuellement livrer des fruits qui, à long terme, se révéleraient d'un poids bien plus considérable que le problème immédiat de l'approche d'un vaisseau. Jean Dibal avait aussitôt saisi cette possibilité, intuitivement, dès qu'il avait pris conscience de l'aspect étonnamment lisse et symétrique de l'esprit de Novi, et il se félicita avec un sombre orgueil de ses capacités d'intuition. Les orateurs avaient toujours été très fiers de leur pouvoir d'intuition. Mais dans quelle mesure était-ce inhérent à leur incapacité à mesurer les champs par des méthodes physiques directes et par conséquent leur incapacité à comprendre réellement ce qu'ils faisaient? Il était facile de masquer leur ignorance derrière le terme mystique d'intuition. Et dans quelle mesure cette ignorance relevait-elle de leur sous-estimation délibérée de la physique par rapport à la mentalique? Et dans quelle mesure tout cela même relevait-il d'un orgueil aveugle? Lorsqu'il serait devenu premier orateur, songea-t-il, tout ça changerait. Il leur faudrait réduire quelque peu l'écart entre les fondations dans le domaine des sciences physiques. La Seconde Fondation ne pourrait pas éternellement courir le risque de sa perte chaque fois que son monopole en mentalique lui échapperait, ne serait-ce qu'un tantinet. Voire, ce monopole était peut-être bien en train de lui échapper. Peut-être que la Première Fondation avait fait des progrès ou s'était allié avec les anti-mulets, cette idée lui venait pour la première fois, et il ne put s'empêcher d'en frémir. Toutes ses pensées sur le sujet lui traversaient l'esprit avec une rapidité commune chez un orateur, et tout en réfléchissant, son cerveau surveillait toujours la lueur émanant de l'esprit de Novi en réponse à ce champ mentalique qui les baignait subrepticement. Or, cet éclat ne s'accroissait absolument pas alors qu'approchait le vaisseau de la Fondation. Ce n'était pas en soi une indication absolue que le vaisseau fût dépourvu de capacité mentalique. Il était bien connu que le champ mentalique n'obéissait pas à la loi de l'inverse carré. Il ne variait pas exactement en raison inverse du carré de la distance séparant émetteur et récepteur. En ce sens, il différait des champs électromagnétiques et gravitationnels. Toutefois, s'il variait moins avec la distance que ses homologues en physique, le champ mentalique n'y était pas non plus totalement insensible. Et la réponse de l'esprit de Novi aurait dû révéler un accroissement tangible à mesure qu'approchait le vaisseau de guerre. Enfin, un accroissement quelconque. Comment se faisait-il que depuis 5 siècles, depuis Harry Seldon en somme, aucun membre de la seconde fondation n'avait eu l'idée de déterminer une relation mathématique entre l'intensité du champ mentalique et la distance? Ce dédain pour la physique devait cesser, et il cesserait, se promit silencieusement Jean Dibal. Si le vaisseau émettait un champ mentalique, et s'il avait la certitude d'approcher un second fondateur, n'aurait-il pas accru son intensité au maximum avant d'avancer? Et dans ce cas, l'esprit de Novi n'aurait-il pas forcément enregistré un quelconque accroissement de sa réaction? Et pourtant non. Sans hésiter, Jean Dibal élimina la possibilité que le vaisseau fût équipé d'un champ mentalique. En ce domaine, il avançait à l'aveuglette, et la menace qu'il représentait diminuait d'autant. Le champ mentalique, bien sûr, existait toujours, mais il fallait qu'il provienne de Gaïa. C'était passablement troublant, mais le problème immédiat restait le vaisseau. Une fois celui-ci éliminé, il pourrait reporter toute son attention sur le monde des anti-mulets. Il attendit. Le vaisseau allait bien faire un mouvement ou bien approcher suffisamment pour lui donner l'impression qu'il pouvait de confiance passer à l'attaque. Le vaisseau de guerre approchait toujours, à bonne allure maintenant. Et pourtant, toujours rien. Finalement, Jean Dibal calcula que la force de sa poussée serait suffisante. Il n'y aurait aucune douleur, tout juste un léger malaise. Les membres de l'équipage auraient simplement l'impression que les muscles de leur dos et de leurs membres réagissaient avec un certain engourdissement. Jean Dibal focalisa le champ mentalique que maîtrisait son esprit. Le champ s'intensifia et franchit la distance le séparant du vaisseau à la vitesse de la lumière. Les deux appareils étaient assez proches pour rendre un contact hyperspatial avec son inévitable imprécision totalement inutile. Et Jean Dibal se retira soudain, totalement abasourdi. Le vaisseau de la Fondation était entouré d'un champ mentalique particulièrement efficace, dont la densité était proportionnelle à l'intensité de son propre champ. Le vaisseau n'avançait pas du tout à l'aveuglette en fin de compte, et il était doté d'un moyen de défense passive inattendu. 79. « Ah !» dit Brano. « Il vient de tenter une attaque, Lionot, regardez !» L'aiguille du psychomètre se déplaça et grimpa avec des soubresauts. L'exploitation du champ mentalique occupait les hommes de science de la Fondation depuis 120 ans dans le cadre du plus secret des projets scientifiques jamais lancés, hormis peut-être la mise au point par Harry Seldon de l'analyse psychohistorique. 5 générations d'hommes avaient travaillé à améliorer progressivement un dispositif qui n'était fondé sur aucune théorie satisfaisante. Mais aucun progrès n'aurait été possible sans l'invention du psychomètre, qui pouvait servir de guide en indiquant à ce stade de leur recherche la direction et l'intensité des progrès accomplis. Personne ne pouvait expliquer comment il fonctionnait. Pourtant, tout indiquait qu'il mesurait l'incommensurable et donnait des valeurs à l'indescriptible. Brano avait le sentiment, partagé par certains scientifiques eux-mêmes, que si jamais la Fondation parvenait à expliquer le fonctionnement du psychomètre, elle égalerait alors la seconde Fondation en matière de contrôle mental. Mais c'était pour l'avenir. Pour l'heure, le champ devrait suffire, soutenu qu'il était par leur totale suprématie en matière d'armement conventionnel. Brano envoya le message, délivré d'une voix mâle dont tout accent d'émotion avait été effacé pour la rendre aussi froide que menaçante. Appel au vaisseau Étoile Brillante et à ses occupants. Vous vous êtes emparé par la force d'un vaisseau appartenant à la marine de la Fédération de la Fondation, ce qui constitue un acte de piraterie. Vous avez l'ordre de vous rendre immédiatement, vous et votre vaisseau. Faute de quoi, nous attaquerons. La réponse lui revint avec une voix toute naturelle. Mère Brano de Terminus, je sais que vous êtes à bord. L'Étoile Brillante n'a pas été capturée à la suite d'un acte de piraterie. J'ai été librement invité à son bord par son capitaine légal, Munley Comport de Terminus. Je demande une période de trêve, que nous puissions discuter d'affaires d'importance pour les uns et les autres. Caudel murmura à Brano.
Laissez-moi lui parler, madame.
Elle leva un bras, l'air méprisant. « C'est ma responsabilité, Lionot. » Réglant l'émetteur, Elle prit la parole, sur un ton à peine moins énergique et désincarné que la voix artificielle qui l'avait précédée. Homme de la seconde fondation, comprenez bien quelle est votre position. Si vous ne vous rendez pas immédiatement, nous pouvons vous faire sauter dans l'espace de temps que met la lumière à aller de notre vaisseau au vôtre, et nous n'hésiterons pas. Nous n'y perdrions rien, car vous ne détenez aucune information dont l'importance justifierait de vous laisser la vie sauve. Nous savons que vous êtes de Trentor, et une fois votre cas réglé, nous saurons nous occuper d'elle. Nous voulons bien vous accorder un délai de grâce pour que vous disiez quelques mots, mais puisque vous ne pouvez pas avoir grand-chose à nous raconter, nous ne sommes pas disposés à vous écouter trop longtemps.
En ce cas, dit Jean Dibal, parlons peu, parlons bien. Votre bouclier est loin d'être parfait. Il ne peut pas l'être. Vous l'avez surestimé, comme vous m'avez sous-estimé. Je peux m'emparer de votre esprit et le contrôler, peut-être pas aussi facilement qu'en l'absence de bouclier, mais assez bien quand même. À l'instant où vous déciderez d'employer une arme, quelle qu'elle soit, je vous frapperai. Et vous feriez bien de comprendre ceci. Sans bouclier, je peux manipuler votre esprit en douceur et sans provoquer de dégâts. Avec le bouclier, en revanche, je serai obligé de le traverser en force, ce qui est dans mes possibilités. Mais je serai alors incapable de vous manier avec douceur ou précaution. Votre cerveau se retrouvera pulvérisé comme le bouclier, et l'effet sera irréversible. En d'autres termes, vous ne pourrez pas m'arrêter. Et moi, de mon côté, je peux très bien vous immobiliser en étant forcé de faire pire que vous tuer. Vous serez réduit à l'état de brute sans cervelle. Est-ce que vous voulez courir ce risque?
Vous savez bien que vous êtes incapable de faire ce que vous dites, intervint Brano. Alors vous voulez courir le risque des conséquences que je vous ai décrites? Demanda Jean Dibal avec une froide indifférence. Caudel se pencha pour murmurer. « Pour l'amour de Seldon, madame !» Jean Dibal l'interrompit. Pas tout à fait immédiatement, car il fallait à la lumière et à tout ce qui progressait à la même vitesse un peu plus d'une seconde pour franchir la distance séparant les deux vaisseaux. « Je peux suivre vos pensées, Caudel. Inutile de chuchoter. Je suis également les pensées du maire. Elle est indécise, alors inutile de paniquer tout de suite. » Et le simple fait que je sache tout cela devrait vous prouver amplement les déficiences de votre bouclier.
On peut le renforcer, lança Brano d'un air de défi.
Ma force mentale aussi, rétorqua Jean Dibal.
Mais moi, je suis confortablement assise, ne dépensant que de l'énergie matérielle pour entretenir le champ, et j'ai suffisamment de réserves pour tenir une très longue période. Vous, en revanche, vous êtes obligé d'utiliser votre force mentale pour pénétrer notre bouclier, et vous allez bien finir par vous fatiguer.
« Je ne me fatigue pas, » dit Jean Dibal. « À l'instant où je vous parle, aucun de vous n'est capable de donner un ordre quelconque à aucun membre de votre équipage ou de l'équipage de tout autre vaisseau. Je peux y arriver sans vous faire le moindre mal. » Mais abstenez-vous de tout effort pour essayer d'échapper à mon contrôle, car je serai alors obligé d'accroître ma propre force en proportion, avec pour conséquence les dommages irréparables que j'ai déjà évoqués.
J'attendrai, dit Brano. Et elle croisa les mains sur son giron, avec tous les signes d'une patience inébranlable.
Vous vous fatiguerez, et quand ce sera le cas, les ordres qui partiront seront non pas pour vous détruire, puisque vous serez alors devenu inoffensif, mais pour envoyer le gros de notre flotte contre Trentor. Si vous voulez sauver votre planète, rendez-vous. Une seconde orgie de destruction risque de ne pas laisser votre organisation intacte, comme ce fut le cas la première fois lors du grand pillage.
Ne voyez-vous pas, madame le maire, que si je me sentais fatigué, ce qui, je vous rassure, ne sera pas le cas. Je pourrais sauver ma planète simplement en vous détruisant avant que les forces pour le faire ne m'abandonnent. Vous n'en ferez rien.
Votre tâche primordiale est de préserver le plan Seldon, détruire le maire de Terminus et par là entamer le prestige et la confiance de la première fondation, engendrant un net recul de sa puissance et encourageant ses ennemis de toutes parts, produirait une telle rupture dans le plan que ce serait pour vous presque aussi nuisible que la destruction de Trantor. Non, vous feriez aussi bien de vous rendre. Avez-vous envie de parier sur ma répugnance à vous détruire ? La poitrine de Brano se souleva lorsqu'elle prit une profonde inspiration. Elle souffla lentement, puis dit enfin d'une voix ferme. « Oui !»